Ces trois-là, Marie, Elsa et Guillaume, n'auraient jamais dû se rencontrer. Et d'ailleurs, qu'ont-ils en commun si ce n'est d'habiter le même quartier, celui de Montparnasse à Paris ? Marie est gynécologue. En attendant qu'un poste d'assistante chef de clinique se libère à Brest, elle vient à Paris se perfectionner dans la reconstruction mammaire après un cancer du sein. Marie est un tourbillon de femmes, passionnée par la médecine et la satisfaction qu'elle éprouve de faire le bien autour d'elle. S'installer à Paris pour 6 mois ne lui fait pas particulièrement plaisir. Sa bande d'amis à Brest va lui manquer, l'horizon et les paysages aussi, mais le jeu en vaut la chandelle. Cette jeune femme aux grands yeux verts, à l'humour gras, est extrêmement bavarde et a son franc-parler. Elle est fatigante tant elle déborde d'énergie, peut se montrer butée, mais c'est une femme et un médecin exceptionnel. Ses amis et ses patientes l'adorent et on les comprend. Marie, c'est aussi la très bonne copine. Côté amour, c'est plus compliqué. Elsa, elle, 19 ans, n'a pas eu de chance. Après une enfance désastreuse, elle a dégringolé une marche après l'autre et un jour s'est retrouvée à la rue. Il y a inévitablement la première nuit dehors et c'est là que nous faisons sa connaissance. Elle a dû apprendre à se protéger, plaquer son sac devant elle, sur son ventre, porter des vêtements masculins qui la cachent un maximum. Les endroits où on peut prendre un petit déjeuner, ceux où on peut se laver, elle les connaît maintenant. Et aussi passer inaperçue, se fondre dans la foule, elle sait faire. La nuit, elle trouve le repos dans des bus, des noctiliens dont elle connaît le trajet par cœur. Une femme dans la rue est toujours en alerte, Elsa le sait dorénavant. Elle est épuisée, combien de temps va-t-elle tenir ? Guillaume est barman dans un pub. À ses heures perdues, la nuit, il prend des photos. Ce qu'il aime capturer à travers son objectif, ce sont les détails. Guillaume est un taiseux, un bougon qui vit seul depuis que Virginie l'a quitté dans des conditions plutôt dramatiques. Garder ses distances avec les femmes est devenu son mantra. D'autres personnages gravitent autour de nos trois héros, tout aussi sympathiques les uns que les autres. Gladys la barmane, d'une patience infinie avec Guillaume. Josette, la doyenne des SDF, qui chante à longueur de journée dans la gare Montparnasse. Raphaël, le voisin de Marie, un formidable pâtissier qui accueille la vie et les clients avec gourmandise. Avouez qu'entre une gynécologue survoltée, un barman déprimé et une SDF au fond du trou, on ne voit pas bien le rapport et comment faire pour créer des étincelles d'amitié et d'amour entre eux. Pourtant, le hasard fait parfois bien les choses, surtout quand on se montre patient avec lui et qu'on prend vie sous la plume de Sophie Talmen, que je reçois pour la sortie au livre de poche des Matins Heureux. Bonjour Sophie Talmen, parlez-nous tout d'abord de Marie, qui est le personnage principal des Matins Heureux, mais qui, dans vos romans précédents, avait un second rôle.
Oui, bonjour. Donc Marie existe pratiquement dans tous mes romans. Des Matins Heureux, c'est le 7e. Un personnage haut en couleur. Marie, c'est la copine qu'on a tous, qui nous fait rire, qui est là dès qu'on a un problème, mais qui s'oublie aussi un peu, qui oublie sa propre vie amoureuse pour se mêler de celle des autres.
Il y a un moment dans votre livre, cette citation de Michel Audiard, « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Avez-vous une tendresse particulière pour les fêlés ?
Pour les âmes brisées, oui, c'est sûr. De par aussi mon métier de médecin à l'hôpital, je côtoie beaucoup de trajets de vie compliqués. La résilience est un thème que j'aborde dans tous mes romans.
Justement, les personnages des Matins Heureux vous sont-ils inspirés par des proches, des patients ?
Tous mes personnages sont inspirés des personnes que je côtoie dans ma vie de tous les jours, que ce soit patients, amis. Maintenant, c'est des personnages fictifs. Je prends des traits de caractère, des manies, façon de se tenir, des traits de personnalité, des traits physiques, et j'en fais. Je construis mes personnages comme ça pour qu'ils puissent aussi parler au lecteur. Voilà.
Et donc, je reviens un petit peu sur Marie. Vous avez une copine comme ça.
Oh, aussi, j'en ai plusieurs.
Aussi,
ouais.
aussi survoltée qu'elle et formidable.
Oui, plusieurs copines. Des femmes médecins, hautes en couleur, à forte personnalité, qui sont devenues chirurgiennes. Oui, j'en ai beaucoup.
Donc, c'est un mélange de toutes ces copines-là.
Ouais. Oui, et puis j'ai eu la chance, comme je travaille à l'hôpital, de prendre mon téléphone pour aller discuter avec la copine spécialisée en gynécologie, justement, dans le domaine dont s'intéresse Marie, la reconstruction après cancer du sein. Quoi faire de la cicatrice? Voilà, ça m'intéressait d'aborder la féminité, le corps, voilà.
Parce que je précise que vous êtes neurologue.
Oui, donc je suis assez loin de cette spécialité, mais ça m'intéressait, ce rapport au corps, à la cicatrice, voilà.
Avec Elsa, la SDF, vous faites le portrait d'une femme qui se retrouve à la rue et l'on s'aperçoit que tout va très vite entre avoir un domicile et ne plus en avoir, puis perdre ses repères les plus élémentaires. Le corps aussi, très rapidement, s'abîme. On devine que vous avez beaucoup d'empathie pour les gens qui se retrouvent à la rue.
Oui, et j'ai lu beaucoup hein, sur ces femmes SDF des grandes villes qui se cachent, qui ont peur des violences des rues. Et du coup, je suis tombée sur un reportage sur ces femmes qui se retrouvent dans des bus la nuit, lieu où il y a un conducteur, où on est constamment en mouvement, où il y a de la lumière. Et voilà, et l'idée du personnage d'Elsa est née.
Et où elles doivent se sentir protégées aussi dans les
Complètement.
Bus.
Complètement, oui.
Vous abordez dans Des matins heureux le sujet du viol, de la violence faite aux femmes. L'écriture est-elle pour vous l'occasion de parler des sujets qui vous préoccupent ?
Oui, tout à fait. Une façon de parler des sujets qui m'inspirent au quotidien étant médecin, le corps humain, la féminité dans cette histoire, la solitude, les violences, voilà, la maladie, le rapport à la mort. Tous ces sujets m'intéressent beaucoup.
Des sujets que vous rencontrez, bien évidemment, que vous côtoyez à l'hôpital au quotidien. Vous mettez aussi beaucoup en avant, dans vos ouvrages, des femmes qui manquent de confiance en elles. Marie, sous ses airs bravaches, n'aime pas son corps, est persuadée qu'elle ne plaît pas aux hommes. Elsa, tant qu'elle est dans la rue, est persuadée qu'elle est une incapable, une bonne à rien. C'est sans compter toutes ces femmes qui, en ayant eu un cancer du sein, ont perdu toute confiance en elles et doivent apprendre à s'aimer à nouveau autrement. Pensez-vous que trop de femmes encore s'effacent parce qu'elles ne sont pas assez sûres d'elles ?
Oui, mais pas que les femmes, hein, mais mes personnages masculins ont perdu également confiance en eux, notamment ce fameux Guillaume qui pense qu'il est mauvais, voilà, qui est incapable de faire du bien autour de lui. Oui, ce manque de confiance, mais c'est un drame de notre société. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a aussi le sujet de la culpabilité dans votre roman, beaucoup. Diriez-vous que vous êtes féministe, Sophie Talmen ?
Je pense pas. Humaniste plutôt.
La solidarité joue un grand rôle dans votre roman. Est-elle essentielle selon vous ?
Essentielle. Et ce qui m'intéressait de camper cette histoire dans une grande ville, parce que d'habitude, moi, je campe mes histoires au bord de la mer, en Bretagne. Là, c'est vraiment le seul livre que j'ai campé dans ce bouillon de vie qui est la grande capitale. C'est qu'il y a beaucoup de monde, mais on peut être très seul. Voilà. Et si on n'ouvre pas les yeux, on n'apprend pas à connaître les gens qui gravitent autour de nous.
Êtes-vous d'abord romancière ou médecin ?
Les deux, mon capitaine. C'est vrai que je suis devenue romancière après être devenue médecin. Et je suis contente d'avoir fait ça dans cet ordre-là, puisque mon premier métier me donne un regard particulier sur le monde, sur la vie, sur... le corps humain, sur la relation aux autres, qui nourrit mon écriture. Je n'aurais pas pu écrire ce genre d'histoire à 20 ans.
La promesse du Nil, votre 8e roman, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Pouvez-vous nous le présenter ?
Donc, je vous emmène sur l'île de Groix, à la rencontre d'Alexis. Alexis, c'est un trentenaire qui revient de 8 années de mission humanitaire à travers le monde. Il revient complètement brisé par tout ce qu'il a vu et vécu. Et puis, il n'a plus foi en son métier. Il pense qu'il ne pourra plus être médecin. Quand il revient à Brest, il rencontre un de ses amis, Mathieu, qui lui demande un service, celui de remplacer son papa, l'unique médecin généraliste de l'île de Groix, qui a bien l'âge de prendre sa retraite et qui n'est pas raisonnable, qui doit se faire opérer et qui repousse l'échéance. Donc, il lui demande s'il peut l'aider, juste remplacer quelques jours son père le temps qu'il se fasse opérer. Il y va un peu à contre-cœur. Et puis, il arrive sur l'île. Et là, bah, c'est un nouveau départ qui va s'offrir à lui, au contact des habitants. Et puis, il va découvrir ce que peut être la médecine générale, une médecine de proximité. J'ai écrit ce livre un peu en hommage à mon papa, qui est toujours médecin généraliste à 70 ans, qui repousse l'échéance lui aussi. Je ne sais pas si un jour il partira en retraite. En tout cas, il dit que non. Et il le met bien dans sa salle d'attente pour ses patients. Je ne partirai pas en retraite. Et puis, à l'heure où j'ai écrit le livre, l'unique cabinet sur l'île de Groix fermait, avec des banderoles un peu partout sur l'île, il nous faut un médecin. Donc, c'était un sujet d'actualité. Je parle aussi des déserts médicaux. Et puis, je vous embarque dans une histoire, voilà, d'amour aussi.
Et est-ce qu'il y a un médecin depuis sur
oui,
l'île
depuis
de Groix?
Heureusement, le problème est résolu. Il y a un cabinet qui s'est formé avec des médecins, 7 médecins. Qui tourne, des médecins qui habitent sur l'île, des médecins qui viennent à la journée, donc tout va bien.
Très bien, donc je rappelle que c'est La promesse d'une île, ouais. Aux éditions Albin Michel. Donc ça, c'est votre 8e roman.
Oui,
c'est bien ça.
Tout à fait.
Vous allez maintenant nous lire un extrait, Sophie Talmen, de « Des matins heureux ».
Donc c'est le début, le tout début du livre. Pas besoin d'ouvrir les yeux, Elsa connaissait le trajet par cœur. Tournant, ligne droite, feu, dos d'âne, voie de bus qui rendait la conduite plus fluide. Elle savait que tant qu'elle serait en mouvement, tout se passerait bien. Chez elle, les secousses avaient quelque chose d'apaisant, comme le murmure des bruits environnants qui s'animaient ou s'éteignaient en arrière-fond. À croire que par réflexe de survie, son ouïe s'était développée. En ce moment, elle discernait parfaitement, 3 rangées derrière elle, les ronflements de l'homme ivre dont le crâne venait régulièrement cogner contre la vitre, les baisers passionnés du jeune couple à sa droite, les éclats de rire et le chant du groupe d'étudiants en dernier rang. Si elle avait pu retarder leur descente, elle les aurait gardés toute la nuit autour d'elle. Grâce à eux, elle se sentait moins seule, moins décalée. Grâce à eux, elle s'inventait une raison de ne pas dormir dans un lit. Mais ce qui la rassurait plus que tout le reste, c'était le bruit de fond, le roulement continu des pneus sur le bitume, le soupir des portes qui s'ouvrent et se referment, le frottement des mains sur le volant. Un peu comme le battement cardiaque qui prouve qu'on est encore en vie. Cet autobus, elle ne le considérait pas comme un simple moyen de transport. Elsa savait qu'il ne l'emmènerait nulle part, qu'elle descendrait à l'endroit même où elle était montée, qu'elle n'avait pas de temps à gagner. Ce noctilien, c'était son rempart contre la nuit, le froid, la menace, c'était devenu son refuge.
Nous allons maintenant passer au questionnaire secret d'écriture. Sophie Talmen, votre mot préféré?
Mon mot préféré, c'est gratitude.
Celui que vous détestez?
Nullité. J'ai appris à mes enfants à dire ce n'est pas que c'était pas nul, que c'était plutôt je n'aime pas.
Votre endroit préféré au monde?
L'île de Groix et le phare de la Pointe des Chats.
Votre dernière lecture?
3 de Valérie Perrin. Je l'ai lu avec un peu de retard.
Votre prochaine lecture?
Oh, ça va être le Pancol, le gros pavé de Catherine Pancol. Le prochain de Catherine Pancol.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire?
Moi, j'écris le soir, quand mes enfants sont couchés. Voilà, une écriture pour me détendre, pour évacuer les émotions de la journée. Une soupape de décompression.
Je crois savoir que vous écrivez le soir vraiment de manière vraiment du lundi au vendredi.
Oui, hein, je suis très rythmée. Quand mes enfants sont couchés, c'est un rituel. Et j'écris au milieu de mon salon. Voilà, ça peut vivre autour de moi. Il n'y a pas de problème.
Pourquoi écrivez-vous?
Bah, je le dis, là, c'est vraiment une écriture... pour prendre du recul sur ma vie de tous les jours, pour évacuer les émotions de la journée, pour c'est vraiment une écriture bien-être. Il y a des personnes qui font de l'hypnose, de la méditation, qui se détendent comme ça. Moi, c'est d'ouvrir ma fenêtre et de retrouver mes personnages et libérer mon imaginaire. Ça, c'est un besoin.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez, et si oui, laquelle?
Toujours, je peux écrire dans un train, dans un bar, ça peut vivre autour de moi, donc je mets un casque et j'écris en musique, souvent de la musique anglaise pour pas que ça interfère trop. Quand c'est des textes français, alors là, ça interfère trop avec l'écriture. Et là, en ce moment, j'écoute Charlotte Cardin.
Luttez-vous contre la page blanche et si oui, comment ?
Eh bien non, en tout cas, je ne lutte pas. C'est vraiment une écriture bien nette. Si un soir, je suis trop fatiguée, que je n'ai pas d'idée, hein, forcément, je dis souvent à mes patients qu'on n'est pas des robots, eh bien voilà, je fais autre chose, mais je ne lutte pas.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Bah pareil, j'ai pas vraiment beaucoup de batailles. Je suis plutôt une femme d'action. Ce que je défends dans mon roman, c'est le rôle de l'autre dans notre bien-être, dans notre façon d'aller de l'avant, de nous reconstruire après des drames. On a besoin d'être accompagné. Alors pas d'une multitude de personnes, mais de personnes clés. Et c'est ce que je défends dans mes romans.
Je précise que dans votre roman, il y a des recettes. Donc nous avons là le pudding aux graines de chia de Virginie, l'Old Irish Whiskey de Guillaume, le gobe-mouche, le cocktail Rob Roy de Marie. Je crois que c'est une habitude dans vos romans de mettre des recettes de cuisine et de cocktails.
Oui, ça m'amuse. J'ai l'impression que ça amuse mes lecteurs aussi. Ils peuvent faire les recettes après coup et se replonger dans l'histoire d'une autre façon. Le gobe-mouche,
redoutable.
C'est un bar, ouais, un bar qui est présent dans toutes mes histoires, hein, de la première à la dernière, que j'ai campé à Brest, mais je m'inspire d'un bar qui existe vraiment en Bretagne, qui s'appelle le Tumouche, à Plurien. Le village s'appelle Plurien, à côté du Cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor. Je vous invite à aller faire un tour. Ça vaut le détour.
Merci Sophie Talmen d'avoir participé à Secret d'écriture. Je rappelle le titre de votre roman « Des matins heureux ». Il y a aussi marqué sur la couverture le roman « Des nouveaux départs ».
Merci à vous.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À bientôt !